Il y a eu des moments pas toujours évidents, hein. Le petit bad buzz, franchement, qui contrarie, hein. On se rend pas forcément compte, mais quand on est comme ça, face à des millions de personnes, moi ou d'autres, hein, et qu'on essuie comme ça des mauvais moments, ça impacte énormément la vie personnelle, puisque les deux sont extrêmement liés, mais tout finit par passer, et puis en s'accrochant, on arrive toujours à sortir plus fort.
Championne du monde !
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute!
Allez, on implore le dieu du fitness de nous tonifier ce petit cuisseau. Ça chauffe le bouti, on l'a activé tout à l'heure. Là, il est on fire. La mer Méditerranée arrive, là, je le sens. Ça dégouline sur le tapis. On s'accroche, on donne tout. C'est la fin de la fin, la dernière ligne droite. C'est le moment ou jamais de se dépasser. Devenir la meilleure version de soi-même, vous le savez, les filles de genre.
10 secondes!
Allez, plus que 8, 7, 6, 5. 4, allez, on reste 3, 2, et 1, et bam, le dernier.
Sissi Mua, la fitness girl française la plus influente au monde, rien que ça, est l'invitée de ce nouvel épisode. De ses débuts sur YouTube, dans son petit appartement d'étudiante, à sa nouvelle application Trend Sweat Hit et ses millions d'abonnés dont elle est devenue presque la tata, on retrace avec Sissi sa folle ascension en 10 ans de création de contenu sur les réseaux. Dans ce grand entretien exclusif d'une heure, on parle aussi de body positivisme, des sacrifices de l'entrepreneuriat quand on est en couple et de son rêve ultime qui envoie du lourd, vous allez voir. Découvrez l'envers du décor de Sissi Mua, la girl boss passionnée qui veut vous faire suer pour devenir la meilleure version de vous-même. Bonne écoute et bienvenue au Fidjan. Salut Sissi.
Salut.
Comment tu vas?
Bah super bien. Super contente d'être ici aujourd'hui.
Et bah écoute, on est super contente d'être ici aussi aujourd'hui, sous le soleil du sud.
Oui.
Je t'avoue que c'est un peu plus sympa parce qu'on vient de Paris, il faisait pas très beau.
Ah bah là on est servi, il n'y a pas un nuage à l'horizon, donc impeccable.
C'est clair, sous le soleil, dans un jardin, j'avoue que je ne vais pas bouder mon plaisir, c'est plutôt sympathique. Et d'être avec toi aujourd'hui sur Eurosport aussi, c'est top.
Oui.
Je suis super contente qu'on puisse passer ce petit moment ensemble et apprendre peut-être un peu mieux à te connaître, en tout cas revenir sur ton parcours.
Oui.
Alors, on va commencer tout de suite. Sissi, tu t'appelles Sissi Mua. Mua, parce qu'au départ, tu t'es lancée sur YouTube pour parler de maquillage.
Tout
donc,
à fait.
Mua, ça veut dire make-up addict.
Exactement.
Et non artiste, ce que je croyais au début,
d'ailleurs. Oui, bon, ceci dit, c'est pas très, très éloigné. On reste dans le make-up, mais t'as bien fait tes recherches.
Bah, tout à fait. Bon, quand même, hein. Attends. comment on passe d'une Mua, d'une make-up, j'allais dire artiste, tu vois, encore j'allais...
D'une grosse make-up addict.
Ouais. À une... FA, une fitness addict, parce que voilà, c'est vraiment la transition que toi t'as faite au début.
Tout à fait. Alors, je me suis lancée effectivement sur les réseaux en partageant des petits tips de make-up, mais aussi un petit peu de mode, lifestyle, tout ce qui touchait, on va dire, à la féminité de près ou de loin. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait, qui me passionne toujours à l'heure actuelle. Et puis, tout simplement, les réseaux sociaux sont devenus au fur et à mesure des années le reflet de ma vie personnelle. Et lorsque le sport a intégré, enfin le fitness en l'occurrence, a intégré mon quotidien de manière plus importante, ça s'est retranscrit au travers de mes vidéos, de mes publications, etc. Et c'est un sujet qui a beaucoup intéressé ma communauté à cette époque, puisque c'est vrai que j'étais en France la première à aborder le thème du fitness auprès des femmes. Et ouais. Je pense que c'est quelque chose qui manquait un petit peu auprès des sportives. Et suite à cet engouement, j'ai décidé d'en partager de plus en plus, sachant qu'en plus, le fitness prenait aussi de plus en plus de place dans ma vie personnelle. Et c'est naturellement que le sport a intégré... quasiment à 100% aujourd'hui mes réseaux sociaux. Je parle pas que de ça,
ouais.
Mais j'en parle beaucoup.
C'est le gros du sujet, en fait.
C'est le gros du sujet, exactement.
Comment t'expliques qu'il y a 10 ans, tu disais que t'étais une des pionnières, en fait, finalement, du fitness sur les réseaux, sur YouTube. Oui. Comment ça se fait qu'avant, on n'en parlait pas autant et qu'il y avait personne qui s'était emparé du sujet?
Tout simplement, je pense, parce que le fitness était quand même un milieu qui était très masculin. Quand on va dans une salle de musculation, même encore à l'heure aujourd'hui, hein, 90% de la fréquentation, ce sont des hommes. Et puis, c'est vrai que ça avait ce côté un petit peu, le fitness, c'est forcément la musculation, les compétitions, etc. Et on ne s'imaginait pas forcément, en tant que femme, pouvoir aller dans une salle de musculation et se sculpter une shape, entre guillemets, qui reste féminine et compagnie. Donc, les femmes avaient un petit peu peur. Et moi, c'est suite à un voyage au Brésil lors de mes études que j'ai découvert un petit peu ce milieu du fitness sur les réseaux sociaux. C'était à l'époque où Instagram, etc., a commencé un petit peu à se développer. Et du coup, on a eu un petit peu on va dire la possibilité de découvrir d'autres pratiques à l'étranger. Et je me suis rendu compte, en réalité, que finalement, pratiquer le fitness, ça ne rendait pas masculine pour autant et que c'était un sport super sympa, super pratique aussi. On y va quand on veut, sans partenaire. Et surtout, que ça a permis de se faire du bien mentalement et physiquement. Et c'est comme ça que... l'envie m'est venue tout simplement de pratiquer et d'en parler sur ma chaîne.
En fait, tu t'es rendu compte qu'ailleurs, dans d'autres pays, là tu parlais du Brésil, c'était développé et qu'en fait, finalement, en France, personne ne s'était vraiment emparé du sujet, quoi.
Complètement. Le Brésil a une forte influence américaine. Donc, en fait, c'était un sport qui était déjà très présent aux États-Unis. Il y a plein de femmes qui le pratiquaient. Et en France, on ne l'avait pas encore découvert. Donc, c'est naturellement que ça s'est fait.
Jusqu'au gros boom du fitness à l'heure actuelle, parce que maintenant, c'est quand même devenu vraiment un... Je ne sais pas si on peut parler de phénomène, mais en tout cas...
C'est bien démocratisant, en tout cas.
Ça s'est vraiment démocratisé, ouais. Donc ça, c'était il y a 10 ans.
Ouais, déjà.
T'as 30 ans aujourd'hui.
Ouais.
Le plus bel âge est 30 ans aussi.
je veux bien te croire.
Bon, je dis ça, mais bon, en même temps, le temps qui passe, tout ça, moi, ça me stresse.
Là, je suis bien d'accord avec toi.
Donc, du coup, comme je te disais, c'était il y a 10 ans.
Ouais.
Il y a du temps à passer depuis. Si tu devais définir ton métier à l'heure actuelle, maintenant, tu le définirais comment ?
Créatrice de contenu. C'est vraiment, je pense, le mot qui me définit le mieux, autant sur les réseaux sociaux que sur ma propre application, Train Sweat It. Aujourd'hui, je crée du contenu. Et ensuite, en parallèle, je suis chef d'entreprise.
Ouais.
Donc, j'ai vraiment un petit peu ces deux casquettes à porter en parallèle. C'est pas toujours facile, mais voilà, même dans mon rôle de chef d'entreprise, mon objectif numéro un, c'est de créer du contenu pour mes clients, mes abonnés. Donc, je pense que c'est le terme le plus complet aujourd'hui.
Ouais, ce qui résume le mieux, parce qu'au final, tu fais plein de choses différentes, en fait. Tu le disais, tu fais des vidéos sur YouTube, tu es présente sur YouTube. Alors, j'ai noté le nombre de personnes qui te suivaient, c'est impressionnant, je crois. YouTube, Insta, on est à 3 320 000.
Ah, si on additionne les deux, ça fait pas mal de monde. Ouais.
Voilà, ça vous vous rendez compte un petit peu de ce que c'est. J'aurais dû comparer avec la population d'un pays pour qu'on se rende compte un petit peu de.
Ouais, c'est vrai que quand on relativise comme ça, on se dit, mais c'est énorme, on s'en rend pas compte, c'est un numéro, c'est des pseudonymes, mais c'est incroyable. Ouais.
Et t'as ton entreprise, t'as créé une application avec ton compagnon il y a 2 ans, je crois, à peu près, c'est ça ?
Tout à fait.
Train Sweat It.
Oui.
Et puis plein d'autres choses aussi, tu fais des collaborations avec des marques, t'as plein d'activités.
Oui, tout à fait.
Et laquelle est ta préférée ?
Ah, c'est difficile d'y répondre. En fait, je suis très contente aujourd'hui d'avoir un peu diversifié justement mon activité. Ça me permet aussi de varier mon quotidien. Être créateur de contenu sur les réseaux sociaux, c'est chouette. Mais au bout de 10 ans, c'est vrai que finalement, on s'imagine que c'est une vie de star, mais c'est très routinier. Hein. Créer du contenu, faire du montage vidéo, chercher des idées. Bon, voilà, ça revient au bout d'un moment. Et le fait d'avoir diversifié mon activité avec Train Sweat It et d'autres collaborations qui vont justement bientôt voir le jour, ça nous permet d'avoir un quotidien qui est très varié et de garder justement cette envie de créer, d'innover. Et c'est ce qui permet, je pense, de rester créatif et de continuer à aimer ce qu'on fait au bout de 10 ans. Quoi.
Ouais, mais t'as pas l'air effectivement d'être quelqu'un de routinier.
Non, pas trop.
On sent que c'est pas forcément quelque chose que t'affectionnes.
Oui, c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, généralement, on a les idées qui fusent et ça permet de pas s'enfermer dans sa propre routine et de chercher un petit peu aussi le challenge. C'est pas toujours facile, mais c'est ça qu'on aime bien, quoi.
Est-ce que tu te reconnais, du coup, vraiment dans l'expression « girl boss » ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu dis « effectivement, aujourd'hui, je suis un peu une girl boss ». Alors, pas du tout négatif en disant ça, au contraire, tu vois.
Oui, c'est vrai. Un peu, entre guillemets, malgré moi, finalement, parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y a 10 ans, je n'avais pas la moindre idée d'où ça me mènerait.
Ça allait devenir.
Complètement. C'était vraiment un hobby. C'était vraiment vécu comme ça. Un hobby qui me prenait beaucoup de temps, mais c'était un hobby quand même. Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, on se rend compte que quand on est passionné par les choses, on a envie de créer, de continuer, de persévérer. Et puis, finalement, je pense que c'est peut-être aussi mon état d'esprit un petit peu de base qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée ici. Ce statut un peu entre guillemets de girl boss et c'est pas pour me déplaire, je vais pas mentir.
C'est clair,
c'est une activité que j'aime beaucoup et dans laquelle je m'épanouis pleinement, donc Je l'assume totalement.
Mais t'as bien raison. Et au contraire, je pense que c'est important aussi d'avoir des exemples comme ça. Et c'est aussi nous, ce qu'on essaie de mettre en avant avec le podcast, c'est de montrer que il y a pas de honte à réussir. Et au contraire, c'est inspirant et
totalement.
Et si ça peut permettre à d'autres gens
mais
aussi de se lancer, c'est cool, quoi.
Des fois, en France, on a l'impression qu'il faut un petit peu le cacher, qu'il faut pas le dire, surtout quand on est une femme, etc. Et puis finalement, pouvoir être un modèle entre guillemets, on va dire de mon statut, mais pouvoir inspirer les femmes qui me suivent, elles sont quand même en grande majorité. C'est toujours appréciable de savoir qu'on peut booster des personnes à se lancer dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me font des retours comme ça aujourd'hui, qui me disent suite au confinement, ça m'a inspiré, je me suis lancée, je me suis mis à mon compte par exemple, tout simplement. Et ça, c'est chouette. Je leur souhaite à toutes.
C'est clair, c'est une espèce d'un peu de reconnaissance ultime, moi, je trouve même.
Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est vrai, de par mes cours de fitness, etc., mais aussi mon activité, c'est vrai que c'est super agréable de savoir qu'on inspire positivement les gens, qu'on a vraiment un impact dans leur vie perso. Alors, il y a des personnes qui, sur un sujet totalement différent, peuvent venir me voir en me disant grâce à toi, je suis sortie de l'anorexie, tu as changé ma vie. Puis de l'autre côté, il y a des personnes qui me disent grâce à toi, j'ai quitté mon job, je me suis mis à plein temps sur mon activité et je vis ma meilleure vie, quoi. Donc, c'est trop bien.
Trop bien. Et tu le disais, effectivement, au début, tu as commencé, c'était plutôt une activité comme ça, limite pour le fun, en fait.
Totalement.
Maintenant, c'est devenu vraiment ton métier à part entière. C'est une entreprise. Oui. Tu gagnes ton argent avec ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que la vision que tu as du fitness, au fur et à mesure, en ces 10 ans, elle a changé quand même pour toi?
Elle a évolué. Elle n'a pas vraiment changé. Moi, personnellement, c'est vrai que je pense ne pas avoir beaucoup changé.
Ouais.
Et ma vision, c'est pareil. Elle a évolué. Je me suis adaptée finalement avec les années, avec le milieu dans lequel j'évoluais, tout simplement. Le fitness, évidemment, a changé aussi en 10 ans. Ce milieu, même ne serait-ce qu'à 5 ans, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Les femmes s'affirment beaucoup plus. On est moins confronté à un petit peu cet esprit macho qu'il pouvait y avoir à cette époque. Moi, je me suis toujours affirmée et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ça change pas.
Tu parles de l'esprit macho. Tu vois aussi que dans le milieu du fitness, t'en parlais au début, il y a vraiment la mentalité à évoluer. Est-ce que toi, d'ailleurs, au tout début, t'as été confrontée à de la misogynie ou du sexisme?
Oui, alors, pas que, hein, en toute honnêteté, les critiques, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est notre quotidien.
Ouais.
Hein. C'est vrai que c'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre. Ça m'a jamais affectée plus que ça. Je pense être quelqu'un bien dans sa peau qui, du coup, le vit plutôt bien. On aime ou on passe, quoi, tout simplement. Et ça s'est affirmé avec le temps. Ça ne m'a pas impacté au point de changer mon contenu, de changer ma façon d'être pour plaire. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui a plu. Les gens ont adhéré à ma personnalité, la vraie. Ça ne m'a pas impacté. Néanmoins, c'est vrai. Je dois reconnaître que les critiques viennent la plupart du temps d'hommes.
Okay.
Étonnamment, ce n'est pas ma cible principale. Et pourtant, ça reste ceux qui se permettent le plus de donner leur avis. Voilà. Mais justement, en traçant sa route et en ne s'arrêtant pas à ce type de commentaires réguliers, je pense que les gens ont compris que ça ne servait à rien de continuer. Et ça reste, je pense, un exemple aussi pour les femmes de voir que malgré le milieu un petit peu difficile, en s'accrochant, on arrive à ses fins, coûte que coûte, quoi.
Ouais, carrément. Mais c'est vrai, c'est un vrai message, même, tu vois, effectivement, le milieu du fitness, le milieu de la musculation, encore plus.
Oui.
C'est vrai, quand on va, moi, je vais à la salle, par exemple, aussi. Quand tu vas dans une salle de muscu, c'est...
Il y a un peu d'appréhension, toujours.
Il y a un peu d'appréhension, et effectivement, t'es quand même, c'est 80%, peut-être 70%, ça dépend des salles où tu vas.
Moi, j'étais la seule femme. Hein, donc,
c'est vrai.
Moi, c'est réglé. Et ça a duré des années.
Je pense qu'effectivement, ça a un peu évolué par rapport à il y a 10 ans.
Ouais.
Mais il y a toujours ce petit truc un peu d'appréhension quand même. Alors, quand t'es sur les... Ça dépend aussi des machines. Quand tu es sur les tapis, ça va parce que ça va être très féminin, par exemple. Mais dès que tu vas sur des machines avec du poids, ce genre de choses, c'est 100% quasiment d'hommes.
Ah oui.
Comment toi, quel conseil aussi t'aurais justement à ces femmes qui aimeraient passer le pas, qui voudraient peut-être aller en salle, qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de se prendre des réflexions ou...
Alors, je ne vais pas mentir, moi aussi, j'ai eu cette appréhension. Hein, je ne vais pas dire que c'est faux parce qu'elle est totalement là. Quand on sait que c'est un univers qui est totalement masculin, en plus, on est jeune, hein, donc on arrive, c'est la petite jeunette qui débarque dans les machines d'hommes, forcément.
Elle ne sait pas s'en servir.
Voilà, il va y avoir des regards, les gens vont regarder, mais ce n'est pas forcément de façon malveillante, plutôt de la curiosité, c'est qui celle-là qui débarque.
Ouais.
Faut pas s'arrêter à ça. C'est vrai que la première fois, on prend un petit peu son courage à deux mains, on se dit allez, je fonce. Moi, je conseille d'y aller de manière comment dire, déjà d'être bien dans sa peau, de bien choisir sa tenue, d'être à l'aise dans la façon dans laquelle on va y aller. Déjà, c'est ultra important. Si on n'est pas forcément à l'aise en brassière ou autre, ben, voilà, d'être vraiment dans une tenue dans laquelle on est à l'aise. C'est un détail, mais ça compte. Ouais. Parce qu'il va y avoir des regards sur soi, etc. Et si on est là à vouloir se cacher, ça ne va pas aider. Mmh. Et de choisir aussi ben, la pratique qu'on a envie de faire. Pas forcément à se forcer à aller faire du développé couché si on ne maîtrise pas et qu'on a un petit peu peur, etc. De dire, bon, ben, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire telle machine. Et ben, j'y vais. Pas hésiter à demander des conseils aussi. Finalement, les gens sont plus curieux que malveillants, comme je disais, et les hommes ne vont pas hésiter à aider s'ils voient que la personne est motivée, a envie d'apprendre, etc. Et puis souvent, ça dure une semaine. Comme n'importe quel nouveau, on regarde toujours, bah, tiens, il y a un nouveau dans le cours de tennis ou autre, et puis au bout d'une semaine, on connaît sa tête, on passe à autre chose. Ouais. Là, c'est pareil. Après, bah, voilà, en discutant un petit peu avec les hommes sur place, ils sont souvent extrêmement contents d'avoir justement un peu de gens de féminine dans leur salle. Et souvent, bah, enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. On finit plutôt par être un petit peu la mascotte qu'autre chose.
Ouais.
Donc voilà, il faut vraiment passer cette première appréhension et se dire que la salle, elle est ouverte à tous. Peu importe le niveau, peu importe le genre. Et il faut se faire un peu violence, mais très, très rapidement. On est comme un poisson dans l'eau.
Ouais. Et tu vois quand même que ça a évolué là, en 10 ans. Après, bon, dans l'ambiance, on va dire, globalement ouais. aussi dans les salles de sport.
Oui, puis il y a un petit peu plus de femmes, pas assez encore à mon goût, mais il y en a quand même. Donc les hommes sont habitués à voir des femmes. On n'est plus sur ces idées reçues, la muscu c'est pour les mecs.
C'est ça, ouais, on pousse de la fonte.
Voilà, maintenant c'est normal de venir faire du squat à la salle, faire du développé couché. Les mecs se sont habitués hein, très clairement. Donc,
Bah tant mieux.
Pas d'avoir peur, ils vont pas nous manger. Hein.
Il serait temps. Yes. Alors, effectivement aussi, est-ce que toi, ça c'est un truc souvent que je demande parce que c'est souvent un syndrome un peu féminin, le syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Toi, tu viens pas, tes études, c'est pas du tout, t'as pas du tout fait des études, on va dire, dans le coaching sportif
non.
où tu viens, t'as fait une école d'ingénieur.
Ouais, je suis ingénieur en biologie.
Voilà. Donc, on est quand même assez loin. Bon, alors, il y a l'aspect nutrition quand même qui rejoint un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, mais on est quand même assez loin du monde sportif et fitness. Est-ce qu'à un moment donné, quand ça a commencé à prendre, tu t'es dit mais pourquoi moi alors que en fait je suis peut-être pas la plus à même de parler de ces sujets-là parce que j'ai fait complètement autre chose avant.
Franchement, pas du tout. C'est vrai que c'est un syndrome qui est assez courant sur les réseaux sociaux. Je vois souvent des personnes en parler. Moi, pour le coup, absolument pas. Je pense que quand on est spontané, qu'on partage tout simplement des valeurs qui nous tiennent à cœur, etc. C'est pas quelque chose qu'on ressent. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Je me suis jamais prétendue être professionnelle du milieu. J'étais là pour partager mes conseils, mes good vibes, mon expérience personnelle. Je l'ai toujours expliqué. Ce qui marche sur moi va pas forcément marcher sur 10 personnes sur 10. Hein. Mais c'est vraiment mon expérience à chacun après de se faire la sienne. Aujourd'hui, je m'entoure de professionnels complètement. On a une super équipe sur Train Sweat It qui fait que chacun vraiment apporte son expertise. Donc, à aucun moment, je me sens concernée par syndrome. J'ai passé entre-temps d'ailleurs mon diplôme de coach sportif.
J'allais te demander si tu avais OK.
Je l'ai fait et effectivement, mon diplôme a énormément aidé sur tout l'aspect nutritionnel qui est ultra important, dont je parle aussi beaucoup. Et du coup, j'ai toujours été assez bien dans mes baskets. Quand il y a des choses que je ne maîtrise pas, je n'ai pas peur de le dire aussi, de répondre, ce n'est pas mon domaine, il faut se tourner vers un professionnel. Et ça se passe assez bien, quoi.
Donc, tu n'as jamais eu ce problème aussi de... Parce que je pense qu'il y a ce truc-là aussi quand tu es affiché sur les réseaux. Ouais. De à l'inverse, donc toi t'as pas eu ce problème de légitimité, mais que les gens aient un problème de légitimité vis-à-vis de toi.
Ah, bien sûr, mais ça c'est les critiques quotidiennes.
Ouais.
Pourquoi elle, pourquoi si, elle est pas légitime, elle sait pas faire ceci, elle sait pas faire cela. Ça c'est le quotidien, mais faut pas s'en servir. Enfin, faut pas voir ça comme une critique, une attaque, faut s'en servir comme une force. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on a pu me critiquer sur tel ou tel sujet, ça m'a fait réfléchir et je suis revenue encore plus forte en m'améliorant sur le point en question. Ça, c'est très important, savoir se remettre en cause. Hein, et les gens ont souvent peur de le faire, finalement. Et c'est comme ça que j'ai passé aussi mon diplôme de coach. Je ne l'ai pas créé sur tous les toits parce que je n'avais pas envie de me justifier, finalement. Mais je l'ai fait quand même. Et j'ai avancé. Et aujourd'hui, c'est comme ça aussi que j'ai acquis l'expérience que j'ai, en ne restant pas sur mes acquis et en apprenant aussi des erreurs, des critiques. Et une fois de plus, elles doivent rendre plus fortes et on ne doit pas se laisser atteindre.
Toutes ces critiques, finalement, quand même, tu les écoutes.
Il y Bien sûr.
Ça te fait...
Mais ça me fait avancer. Et comme je dis souvent avec Tini lorsqu'on en parle, mon compagnon, sans la critique, sans la concurrence, sans parfois un petit peu la malveillance aussi des gens, on n'en serait pas là où on est, c'est certain. Si j'avais eu que des gens qui adoraient ce que je fais depuis le tout début, je ne me serais peut-être pas... autant remise en question ouais. Et j'en serais certainement pas ici. Ouais.
Finalement, en fait, est-ce qu'il y a des choses, on va dire des choses, des réussites qui ont été le fruit de choses négatives à la base ?
Bien sûr, chaque critique est bonne à entendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, et c'est comme ça qu'on avance totalement.
C'est fou. Enfin, je trouve ça assez dingue finalement, parce que ouais. Tu vois, tu disais que toi, t'avais pas de problème de légitimité. Donc, en partant de ce postulat-là, on peut se dire aussi, bon bah, moi, je sais qui je sais que je suis légitime, donc j'écoute pas finalement ce que les autres disent. Mais t'es vraiment pas du tout dans cet état d'esprit, quoi.
Non, j'écoute. Bah même, alors, quand c'est la critique de la part de ma communauté, bah, elle vaut évidemment 10 fois plus que les autres, puisque bah, je suis extrêmement à l'écoute de ce que les gens nous demandent, des retours qu'ils nous font sur les réseaux, mais aussi sur Train Sweat It. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'aujourd'hui, Train Sweat It plaît autant, tout simplement parce qu'on s'adapte, on rebondit. Si telle séance, tout simplement, n'a pas plus. Alors des fois ça nous contrarie un peu hein, on va pas se le cacher, mais je me remets en question, je me dis bon, si là la majorité a pensé que c'était trop ceci ou pas assez cela, faut le prendre en compte et rebondir. Mais aussi quand c'est des critiques extérieures, alors je vais pas forcément y accorder la même importance, ouais. Mais c'est aussi bon de savoir pourquoi on a été critiqué sur ce point-là. Est-ce que c'est tout simplement on va dire une mauvaise intention de la personne, ou est-ce qu'il y a peut-être un fond de vérité et il faut rebondir dans ce cas-là aussi. Ouais.
Ouais. Et puis aussi, maintenant, c'est une, comme on le disait au début, c'est une vraie entreprise.
Oui.
Donc, tu es une entreprise, donc tu es soumise aussi à la concurrence.
Bien sûr.
Comme une entreprise, hein, comme n'importe quelle start-up.
N'importe laquelle.
Voilà.
C'est vrai.
Est-ce que ça, c'est compliqué ? Comment tu le gères ? Est-ce que finalement, quand on en business, est-ce qu'on a des ennemis ? Comment on le gère ? Qui sont ces ennemis ? Alors, ça fait un peu guéguerre quand je dis ça comme ça, mais
non, évidemment, la concurrence est là. Après, c'est pas forcément une guéguerre, mais effectivement, d'un point de vue business, chaque entreprise qui propose la même chose que vous reste un concurrent. mais c'est pareil, c'est assez moteur finalement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'étais seule complètement sur ouais. ce créneau-là. Pendant longtemps, j'ai proposé les Bikini XTC, donc des programmes gratuits sur YouTube.
Que tu fais toujours ?
Que je fais toujours, 10 ans après, effectivement. Et à cette époque, personne d'autre n'en faisait, donc j'étais un petit peu la seule sur le secteur. C'était facile, hein, personne ne pouvait faire mieux que moi, donc j'étais bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup d'autres personnalités et entreprises qui se lancent dans ce secteur-là. Et c'est pareil, c'est un moteur finalement, ça nous oblige, hein, ça nous force, même si c'est une volonté aussi, hein, mais ça nous booste pour nous renouveler chaque jour. Et aujourd'hui, je pense qu'on y arrive assez bien. On est pionniers sur plein de secteurs. On se renouvelle, ça nous force à être force de proposition sur plein de choses qu'on n'a pas forcément vues encore en France. Et pareil, ça reste une concurrence positive, même si on aime bien être seul dans son secteur, c'est vrai que finalement, ça booste. Voilà. Quand on fait toujours la même chose...
Tu gardes un œil sur ce qui se fait à côté.
Bien sûr, évidemment, comme n'importe quelle activité, dans n'importe quelle activité, c'est important de savoir ce qu'en font les autres, mais aussi pour pouvoir se démarquer. On n'a jamais cherché à faire pareil ou faire mieux que les autres.
Ouais.
On cherche vraiment à avoir notre propre identité, notre propre contenu, et je pense que c'est ce que les gens aiment bien aussi chez Train Sweat It, ouais. Innovation.
Ouais. Du coup, c'est Sissimua, maintenant, c'est devenu presque une entreprise, au-delà de ta personne. C'est vraiment devenu limite un concept, quelque chose qui te dépasse
plus. Complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on propose, c'est bien plus que de simples cours de fitness. C'est vraiment tout un lifestyle, tout un concept qui vient tout simplement de notre vie personnelle. Il n'est pas inventé de toutes parts. On a vraiment eu envie dans Train Sweat It et dans tout ce que je propose moi sur mes réseaux sociaux, en fait, de proposer ce que nous, on aurait aimé trouver par le passé. C'est pas évident de trouver au même endroit différents secteurs, différentes disciplines, différents coachs, etc. Et c'est ce qu'on s'évertue de faire au quotidien, de se dire, tiens, ça, moi, j'aurais bien aimé le faire. On va le faire sur TSE. Ça, c'est vraiment la réflexion de base. On ne se dit pas, tu vois, on est à 12 € par mois, donc machin. Non, on investit, on se dit, notre app, on veut qu'elle soit la plus complète possible. On n'hésite pas à y aller. Et c'est pour ça qu'on évolue tout le temps, quoi. Chaque mois, il y a des nouveautés. Chaque semaine, il y a des nouveautés. Et c'est vraiment notre lifestyle qu'on essaie de promouvoir. On fait tous nos programmes, on mange toutes nos recettes, c'est d'ailleurs les nôtres hein, qu'on partage. Et ça, c'est important pour les gens.
Ouais.
C'est ce qui fait la diff, je pense, de savoir qu'en adhérant à Train Sweat It, ils vont adhérer en fait, à notre véritable mode de vie. Pas des conseils qu'on donne, mais des conseils qu'on s'applique aussi à nous-mêmes. Et ça fait la diff. Ouais.
Et comment tu le vis, toi, à titre personnel, que Sissimua se soit devenu plein de gens, enfin je sais pas comment dire, mais une entreprise, ouais. D'autres des salariés qui travaillent pour toi, ton compagnon aussi, bon, qui a son entité propre bien évidemment, mais voilà, tout ça, je veux dire, maintenant Sissi Mua, c'est tout ça. Comment toi, à titre personnel, tu le vis? Ou est-ce que c'est même pas un truc que tu réfléchis en fait?
Franchement, je me pose pas trop la question, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit en 10 ans. Les programmes gratuits sur YouTube que je faisais avec mon père, voilà, puis une équipe de vidéastes, puis ensuite, on a créé une société pour Train Sweat It, on a recruté petit à petit du personnel, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu de manière progressive. Donc je me suis pas réveillée un matin en me disant waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, finalement,
tu l'as construit,
enfin, on l'a construit et ça s'est fait naturellement. Ouais.
C'est marrant ce que tu dis on plutôt que je,
oui,
c'est vrai,
oui, parce que alors effectivement, c'est je suis à l'initiative quand même de tout ça, ouais. Hein, clairement. Mais c'est aussi une entreprise qui existe grâce à de nombreuses personnes. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est aussi un peu la magie du truc. Ils ont l'impression que voilà, on pond des vidéos quand on se
par magie.
Par magie, voilà. Et en réalité, il y a énormément de personnes qui bossent dessus derrière et des personnes qui sont très impliquées. Donc, c'est ce qui aide aussi à la réussite du projet. Si les abonnés ne s'en rendent pas compte, j'ai envie de dire tant mieux.
Parce que ça représente quoi à l'heure actuelle ton projet? Il y a combien de personnes qui travaillent avec
si
toi?
Si on compte l'intégralité des personnes impliquées, qu'elles soient salariées ou non, c'est une bonne trentaine de personnes.
D'accord.
Voilà, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail et beaucoup de corps de métiers différents finalement. Il suffit pas d'un vidéaste, hein, avoir une application, c'est quand même très technique. On vient pas du tout de ce milieu-là en plus, donc. Ça demande de bien s'entourer.
C'est ça. Oui, donc c'est vrai. Ouais, 30 personnes, c'est dingue. Ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on voit la part visible de la chose, c'est-à-dire tes réseaux sociaux, en fait, où on va te voir toi, on va voir ton compagnon.
Et puis c'est tout.
Ouais. Ouais. Tu te dis, ah bah ouais, cool. Bah dis donc, ils ne doivent pas beaucoup dormir quand même pour faire tout ce qu'ils font. Ouais. Mais à mon avis,
même
déjà...
Ils ne dorment pas beaucoup, les autres non plus.
J'allais dire, même avec 30 personnes, à mon avis. De toute façon, vous n'avez pas l'air de beaucoup dormir quand même.
C'est
rigolo parce que je me faisais la réflexion, en fait, quand ce que j'ai binge-watché Sissi Mua là, depuis 2 semaines, depuis que je sais qu'on allait faire l'interview. J'ai regardé toutes tes vidéos. Et il y a quelque chose, moi, un peu qui m'a sauté aux yeux. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais... Au début, tu parlais de passion, effectivement, que c'était vraiment quelque chose qui était la passion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est encore plus fort, c'est le travail. Oui. Que tu as une espèce de boulimie de travail au-delà de la passion maintenant. Est-ce que c'est vrai?
Un peu les deux. C'est vrai que j'ai jamais aimé m'ennuyer ou me reposer devant la télé, très clairement. Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais encore étudiante. Je faisais quand même des études déjà assez prenantes. Et je tenais à poster mes 2 vidéos par semaine. Je devais avoir, je m'en rappelle encore... peut-être 20 000 abonnés à l'époque, et je postais mes 2 vidéos coûte que coûte par semaine. Ça me coûtait des fois de faire les montages qu'à 1h, 2h du matin, alors que je me levais à 6 hein, le lendemain, comme tout le monde. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même quand je faisais 500 vues, quand je ne gagnais pas un centime pendant des années, j'ai mis peut-être 6 ou 7 ans à commencer à gagner ma vie avec ça.
Okay.
Ça a été très, très long. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est normal de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Pendant 6 ans, je n'ai pas gagné un centime.
C'est dingue. Rétrospectivement, je trouve ça hallucinant, en fait.
Ouais. Et aujourd'hui, on l'oublie, mais c'est vrai que les débuts des réseaux, c'était ça. Hein. C'était vraiment, on kiffe, on partage ça sur YouTube, mais il ne fallait rien en attendre, quoi, à part un peu de reconnaissance, des fidèles abonnés, c'est tout. Et du coup, voilà, ça a été vraiment une habitude dès le début d'être rigoureuse. Je suis toujours assez à fond dans ce que je fais. Soit je le fais bien, soit je ne le fais pas. Donc, quand je m'embarque dans quelque chose, généralement, c'est pour le mener à bien. Et j'ai toujours eu cette volonté de faire de mes réseaux une plateforme régulière, professionnelle. Je me suis rapidement entourée de vidéastes pour améliorer mon contenu et j'avais vraiment à cœur de proposer le meilleur contenu possible, même quand je gagnais pas ma vie, je travaillais déjà avec des vidéastes. Et ça a toujours été important et forcément ça s'est renforcé avec le temps maintenant que j'ai une entreprise. Et au-delà de la passion, évidemment, il y a la volonté de bien faire aussi. Et voilà, donc les deux se marient plutôt bien.
Et le travail et la qualité, parce que c'est aussi là ce qui ressort de ton discours quand tu disais que tu n'avais pas l'argent pour prendre forcément un vidéaste, mais finalement tu le faisais quand même.
Je le faisais quand même. Aujourd'hui, on réinvestit énormément. On n'hésite pas pour proposer le meilleur contenu. On n'a jamais augmenté nos tarifs et pourtant on a investi aujourd'hui peut-être 100 fois plus qu'il y a 2 ans.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important, savoir donner avant de vouloir recevoir, en fait, même dans le milieu de l'entreprise. Faut pas lancer un pauvre truc et attendre que tout le monde se rue dessus et achète et soit content. Non, faut savoir proposer de la qualité, savoir investir, savoir donner de son temps aussi. Pas hésiter à investir financièrement également. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne et que les premiers abonnés commencent, clients. Et finalement, bah, que voilà, 2 ans après, on a déjà 500 000 personnes sur notre compte Train Sweat It. Personnes qui sont ultra engagées, qui sont abonnées pour certaines depuis 2 ans, depuis 1 an, qui prennent des abonnements 3 ans les yeux fermés parce qu'ils savent que la qualité est et sera toujours au rendez-vous.
C'est fou. C'est marrant parce que tu as un vrai discours de chef d'entreprise.
Là, quand on... C'est le cas.
Bah ouais, quand on, t'écoute, quand on t'écoute, c'est marrant parce que c'est un discours aussi, toi, sur tes réseaux. Tu montres aussi, on va dire, l'aspect vraiment professionnel et toutes les choses un peu cachées, tu le montres moins. Quoique, j'ai trouvé
ça
intéressant.
On essaie de le faire davantage,
Avec la dernière vidéo que vous avez sortie, où vous montrez un peu les backstage. Est-ce que c'est une volonté aussi de montrer que finalement, tout le travail qu'il y a derrière aussi?
Oui, c'est vrai qu'il y a une forte demande. Vraiment, nos abonnés sont ultra curieux, voient qu'on est à 1000 à l'heure et finalement, ne savent pas forcément toujours sur quoi. On ne peut pas passer la journée sur les stories Instagram, c'est compliqué. C'est vrai que quand on est vraiment à fond du matin au soir, on a un peu de mal à produire ce type de contenu. Mais là, on s'y est mis, on a pris encore une équipe de production dédiée à ça pour pouvoir filmer le vrai envers du décor, pas juste la belle photo qui atterrit sur son profil Insta. Et c'est quelque chose qui a énormément plu, voir les bons moments, aussi les moins bons, quand il y a des petits des petits doutes, ils y sont et les gens, je pense que ça les rassure un peu, ça leur ouvre finalement un petit peu la vision qu'ils avaient de Train Sweat It et ils se rendent compte qu'effectivement on filme pas ça avec une petite webcam entre deux et que ils découvrent un petit peu l'univers backstage en fait, ça les intéresse beaucoup.
Tu penses que c'est ça un peu la clé du succès de ton projet, enfin de tes projets? C'est ce mélange de qualité. De don de toi, parce que aussi tu te mets en avant, tu partages beaucoup sur toi, qui fait que ça marche mieux que certains autres qui font la même chose entre guillemets.
Oui, peut-être. Je pense qu'il faut être investi, professionnel, savoir faire de la qualité, mais aussi être authentique. J'ai commencé en étant plus authentique qu'autre chose, parce que à part quelques vidéos, j'avais pas le choix. Aujourd'hui, tout ça, c'est professionnalisé, mais je reste la même personne avec les mêmes valeurs, qui a toujours la même volonté de partager du contenu divers et varié pour tous. On s'est positionné sur Train Sweat It sur des tarifs vraiment extrêmement abordables. On a un petit peu cassé finalement les prix dans le milieu du coaching, j'ai envie de dire. Mais en parallèle, ça ne m'empêche pas de continuer les Bikini XCC, qui sont des programmes gratuits. J'ai plein d'autres choses de gratuites, de prévues. Et en faire un business d'un côté, ça n'empêche pas de continuer aussi à donner du gratuit pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre forcément dans l'aventure Train Sweat It. Et je pense que c'est apprécié. Et finalement, les gens finissent par nous suivre un peu partout à l'arrivée. C'est important.
Parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom aussi pendant le confinement. Ouais. On avait déjà parlé dans d'autres interviews où les gens se sont mis à te suivre, où tu faisais un nombre de vues, mais hallucinant sur des lives. Ça a joué aussi. Ça a été un moment aussi, tu penses, là, vraiment un tournant.
Oui, complètement. Malgré nous, et une fois de plus, je pense que c'est vraiment l'authenticité et la passion qui après fait découler tout le reste. Quand on s'est lancé dans ces lives quotidiens au tout début du confinement, le confinement a été annoncé. Le soir même, j'ai dit, allez, c'est parti, je vais vous proposer des lives de sport, on va s'occuper.
Parce que
tu
avais peur de t'ennuyer,
c'était ça. C'était vraiment, on va faire du sport ensemble. Moi, j'étais la première à plus pouvoir aller à la salle. Ça m'embêtait grave. Donc, je me suis dit, on va se motiver tous ensemble. Et l'idée est vraiment partie de là. Il n'y avait aucune arrière-pensée. On n'a jamais imaginé une seule seconde de l'ampleur que ça allait pouvoir prendre. Des retombées sur mes propres réseaux, mais aussi sur Train Sweat It, puisque ça a fait connaître finalement notre méthode de coaching. Et je pense que le plus important, c'est toujours d'avoir cette passion un peu authentique sans forcément toujours avoir le côté business derrière. Et c'est comme ça qu'après les choses ont été très bénéfiques pour nous et on en est très reconnaissant et très content, mais la volonté principale, elle était surtout de s'éclater, de faire plaisir pour les autres et pour soi aussi, quoi.
Tu parles d'authenticité beaucoup, toi. Ce que tu montres sur les réseaux et la personne que tu es, on va dire, dans le perso, c'est exactement la même personne?
Ouais, je pense. C'est vrai qu'après, il y a ce côté, effectivement, beaucoup plus sérieux dans le milieu du travail, mais les gens le connaissent aussi sur les réseaux sociaux. On n'est pas forcément là à faire des blagues toutes les 5 minutes dans la vraie vie, mais les gens savent que je peux être quelqu'un de positif, good vibes, etc., mais que j'ai aussi de la rigueur derrière. Pas pour rien qu'on m'appelle un peu sur les réseaux la vieille meuf aigrie, parce que j'ai mon côté un peu vieille meuf aigrie.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais. Et ça fait beaucoup rire les filles de Jean, comme je les appelle aussi. Donc, c'est un peu un mélange des deux que les gens connaissent et je pense qu'il leur plaît aussi, nous voir nous chamailler en live, reprendre Tini quand il se trompe sur les chronomètres et autres. Bah, c'est ma vraie personnalité et les gens aiment bien.
Ouais, c'est ça. Après, j'imagine qu'il y a aussi, tu montres pas tout, tu gardes aussi une part de perso pour toi, quoi.
Oui, bien sûr. Après, je garde personnel ma vie intime, ma famille, mes moments vraiment perso. On donne beaucoup, donc on essaye d'en garder un petit peu pour nous quand même. Ça veut pas forcément dire que... qu'on a un personnage sur les réseaux. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, c'est important aussi d'avoir un peu son petit jardin secret pour pouvoir s'échapper un peu tout ça de temps en temps et souffler aussi parce que ça reste un milieu qui est à mille à l'heure. Et des fois, ça fait du bien quand même d'éteindre son téléphone, de passer un moment en famille avec ses amis et de se dire ok, je suis avec mes potes, mais je ne vais pas forcément faire une story. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, j'imagine que toi, forcément aussi, et c'est le problème, si c'est problème il y a, sur les réseaux sociaux, c'est que ton perso et ton pro, c'est un peu mixé. Quoi.
Complètement.
Donc, j'imagine que même toi, à des moments, ça doit être compliqué de lâcher son téléphone et de passer un moment avec sa famille et ses amis, mais ça ne doit pas forcément être évident parce que j'imagine que tu as toujours ce truc du perso. Je veux dire, tu quittes pas ton bureau à 18h30 et tu te dis rentre au bureau et j'oublie, je ferme mon ordinateur, quoi.
Non,
ça n'existe pas chez toi.
Ça n'existe pas. Et puis en plus, ça s'est renforcé maintenant que Tini exerce la même activité que moi. Donc en plus, on va dire mon travail, c'est ma vie personnelle. Mais en plus, même notre vie de couple maintenant, c'est notre travail aussi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de travail à l'arrivée. Hein.
C'est ça.
Mais heureusement que c'est un métier passion. Donc c'est vrai qu'il prend 99% de mes journées, même quand je m'entraîne, je fais ma séance, je la partage, je cogite en même temps. On dîne le soir, on parle de nouveaux trucs qu'on pourrait faire. Enfin, c'est extrêmement prenant, chronophage et envahissant, très clairement.
C'est pas trop chiant, ça, justement ? Il n'y a pas un moment où tu dis... Tu te dis,
parfois,
ça me saoule, quoi.
Ça saoule pas, parce que franchement, je me verrais pas sans. Hein. Moi, j'ai vraiment grandi, en fait, avec ça. Ça fait 10 ans que ça fait partie de ma vie. Et le jour, si un jour ça arrive, ça n'est plus le cas, ça me fera tout drôle, très clairement. mais c'est vrai que des fois, on se dit, un petit break ne ferait pas de mal.
Et vous avez pas la possibilité de le faire, en fait. Enfin,
on l'a, mais c'est difficile.
Parce que je voyais il y a pas longtemps, tu postais une story où tu disais que ça faisait plus d'un an, un an et demi que vous aviez pas pris de vacances.
Ouais, complètement. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas arrêté plus d'un jour complet. Et encore, même un jour complet, on a toujours une bricole à faire. On a quand même 2-3 heures sur l'ordi. Enfin, c'est vrai que c'est une tornade un petit peu dans laquelle on s'embarque volontairement. Hein. On en a envie.
Tu t'es jetée dedans.
Je me suis jetée les deux bras et les deux mains à l'intérieur. C'est vrai que c'est à la fois on a envie de souffler un peu et puis d'un autre côté, on a tellement d'idées en tête que c'est difficile de se dire. Bon, je laisse ça de côté, puis on verra dans un mois, quoi.
Ouais. Il y a une finalité à tout ça ? Quand tu réfléchis le projet, est-ce que tu te dis, OK, je fais tout ça pour arriver là à un moment donné ?
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Notre objectif, c'est vraiment... de démocratiser le fitness. Ça l'a toujours été depuis nos débuts, enfin depuis mes débuts. Ça allait maintenant aussi au travers Train Sweat It et c'est vraiment notre goal, en fait. Ouais. On a vraiment envie de casser un petit peu ce côté élitiste du coaching, etc. Et c'est pour ça qu'on a toujours envie de proposer de nouvelles disciplines, de nouveaux concepts. Par exemple, une discipline à laquelle on n'accède que par des cours un petit peu... élitiste, privé, etc. On se dit, on a envie de ramener ça sur Train Sweat It. C'est vraiment notre motivation, en fait.
Vous voulez devenir un peu une référence populaire, en fait.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Notre objectif, c'est que peu importe le profil de la personne, lorsqu'elle vient chez nous, on ait toujours quelque chose à lui proposer. On a fait un programme femme enceinte. C'est de loin pas le plus populaire parce que forcément, c'est pas la population en majorité chez
c'est
nous.
C'est sûr.
Mais malgré tout, une femme est abonnée chez Train Sweat It, elle tombe enceinte, elle se dit pas, flûte, j'ai plus rien à faire, je me désabonne. Ouais. Non, elle va trouver son bonheur. Une personne en obésité qui arrive chez nous, qui a envie de reprendre un petit peu, on va dire, son quotidien en main, ben, on n'a pas que des programmes pour professionnels. On a aussi des programmes ultra abordables, ouais. débutants, sans impact. Voilà, on essaye vraiment...
Vous voulez vous adresser à tout le monde, en fait.
Exactement.
C'est vraiment, ouais, la, comme je disais, le, l'aspect populaire.
Tout à fait.
Sous un terme...
Et on a aussi des programmes pour les personnes... super athlète qui se donne à fond tous les jours et qui ont envie de se dépasser. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Mais alors, du coup, c'est un, au final, c'est pas vraiment... tu pourras jamais arriver à ce point-là. Enfin, ça peut toujours progresser, en fait, finalement.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours pas pris de vacances depuis un an et demi.
À 90 ans, tu seras encore là et essayer de faire progresser ta communauté.
C'est ce que je dis aux abonnés. Dans ma tête, j'ai des idées pour la fin de mes jours et eux, ils sont pas prêts de quitter Train Sweat It s'ils veulent tout faire. Hein. Vraiment pour un moment.
Est-ce que tu as un rêve, pour le coup, alors pas forcément professionnel, mais est-ce que tu as un rêve à titre perso ou à titre pro, j'en sais rien, mais vraiment un truc que tu veux réaliser?
On aimerait bien un jour pouvoir faire ce type de séance, mais dans la vraie vie, on en a beaucoup rigolé pendant les lives du confinement. On se disait, il y a autant de personnes que dans un stade de France, etc.
Ouais.
C'est vrai que ça aide un peu à visualiser. Moi, j'étais là connectée, j'étais seule dans mon salon, il y avait Tini à la régie, et puis je voyais 90 000 personnes connectées. Enfin, c'est un chiffre, quoi, hein, on voit 90K, bon, ok. Et puis en fait, on se dit, en fait, c'est un stade de France. Hein. Et là, on commence à réaliser l'ampleur du phénomène. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, pouvoir réunir un maximum de personnes au même endroit.
Okay.
Donc, post-Covid, on espère. Et ça serait incroyable. Moi, ça fait partie vraiment de mes meilleurs souvenirs, ces lives avec tout cet engouement, ce nombre incroyable de personnes connectées. Les retours qu'on avait, c'était vraiment quelque chose qui restera vraiment dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Et si on arrivait à refaire la même chose, on va dire en physique.
Au Stade de France, avec...
Au Stade de France, ça serait incroyable.
En fait, est-ce que les influenceurs et les influenceuses ne sont pas les nouvelles pop stars, quoi ? Rock stars de notre génération ?
Indéniablement. Tout simplement, je pense, parce qu'on a cette accessibilité que peut-être les stars de l'époque n'avaient pas. Finalement, nous, on n'est pas vus hein, comme des rock stars. Hein. Sissi Mua, c'est pas la star du fitness.
Sauf si tu te mets à la chanson un jour.
Ouais. Non, mais ça risque pas. je me lancerai pas pour le bien-être de tous. Mais c'est vrai que finalement, moi, les abonnés ne me disent jamais t'es ma star. Ils me disent plutôt t'es ma tata Sissi en fait. T'es ma grande sœur. T'es ma meilleure copine. Et c'est ça qui a un petit peu changé la donne. Les gens ressentent cette accessibilité, on leur répond, on les écoute et ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui les accompagne au quotidien. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchaient finalement pendant tout ce temps. Ouais.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'était aussi une de mes questions. Effectivement, vous êtes un peu, comme je disais, les nouvelles pop stars. Enfin, vous êtes des personnalités en fait, un peu maintenant.
Ouais.
Est-ce que c'est pas compliqué à gérer aussi parce que tu dis les gens sont très proches de toi et t'appellent Tata Sissi comme si t'étais un membre de leur famille, quoi.
Mais c'est ce qu'ils me disent, c'est incroyable. Là.
Et du coup, il y a une espèce de proximité qui est complètement hallucinante, alors que pour 99,9% des gens qui te suivent, tu ne les connais pas.
Non, tout à fait. Je n'en connais que très très peu.
Voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer aussi ? Est-ce que finalement, des fois, il n'y a pas des dérives ? Alors, je ne sais pas si tu as eu des histoires un peu farfelues ou folles avec des gens qui ont tellement l'impression de faire partie de ta vie que ça déborde, quoi.
J'ai eu la chance que ça n'arrive pas. J'ai une communauté qui est très bienveillante. Après, je pense que le positif attire le positif. Hein. J'ai toujours ce discours bienveillant et je pense que du coup, ça se retranscrit dans les personnes qui me suivent. C'est vrai que lorsque j'en rencontre dans la rue ou autre, les personnes me connaissent, mais c'est comme si elles croisaient leur cousine, quoi. Ah, si c'est trop génial. Rigolo. Je ressens pas cette distance. C'est vrai que moi, je les connais pas. Je connais pas leur prénom, je connais pas leur tête, pas leur vie. Mais j'ai un peu l'impression, finalement, que ce sont des membres de ma famille, on va dire, lointaines.
Ouais.
C'est marrant parce que du coup, les gens me disent « Ah ben ouais, je fais tel programme, trop bien. Encore hier soir, j'ai fait telle vidéo et tout. » Puis en fait, on discute comme si on se connaissait de longue date. Quoi. C'est assez rigolo.
Et ça ne te met pas aussi une pression des fois de te dire que tu as tellement d'impact dans la vie des gens. Tu disais tout à l'heure, tu reçois des messages de femmes qui t'envoient « Merci, j'ai perdu 30 kilos grâce à toi ». Et puis après, je veux dire, toi, l'encadrement, tu ne peux pas le faire. Je veux dire, en fait, tu proposes tes programmes, mais il n'y a pas de suivi.
Non.
Tu ne peux pas faire le suivi psychologique.
Un million
de personnes, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Ça te met, tu y penses des fois, ça ne te met pas
bien
une
sûr.
Espèce de pression ?
Alors, ça ne me met pas forcément une pression, mais c'est vrai que ça me... Comment dire ? Ça me mène à réfléchir quand même à tout ce que je partage. C'est rare que je partage des coups de gueule ou des choses comme ça sur un coup de tête parce que je sais que tout peut être interprété, même par des personnes peut-être plus fragiles aussi. Donc, c'est vrai que je fais très attention au discours. Je suis toujours dans la bienveillance. Jamais de discours moralisateur, parce qu'effectivement, ça peut avoir des répercussions très fortes. Et du coup, c'est très important pour moi de jamais, en fait, du moins de tenter, de jamais mettre personne mal à l'aise, et de rester toujours dans ces good vibes qui ne peuvent qu'avoir un impact positif finalement sur les gens. Et effectivement, il y a plein de terrains sur lesquels je vais, on va dire, délicatement, ne serait-ce que par exemple le végétarisme. Je suis végétarienne. Je ne le crie pas forcément sur tous les toits. Les gens qui me suivent assidûment le savent. Les recettes qu'on propose sont végétales. L'objectif, c'est de montrer aussi aux gens qu'ils peuvent s'alimenter de manière différente. Mais mon but, ce n'est pas d'être moralisatrice, de leur dire « Oui, mais voilà, tu manges de la viande, ce n'est pas bien. » Non, c'est toujours d'amener les choses de manière délicate, afin que n'importe qui puisse se sentir concerné ou non. Et pas non plus brusquer les gens, c'est pas l'objectif.
Oui, c'est ça. Ne jamais avoir l'impression d'imposer quelque chose à quelqu'un. Et comment tu t'inscris aussi dans tout ce mouvement Instagram sur les réseaux sociaux qui est... Donc toi, c'est vrai que tu es sur le fitness. Oui. Il y a sur les réseaux sociaux, tout un mouvement sur le body positivisme qui s'est beaucoup développé sur les dernières années où justement on dit aux femmes assumez vos bourrelets, assumez vos vos capitons, assumez tout ça. Toi, tu viens un peu, si je puis dire, en confrontation avec ça. Comment tu le vis et comment tu te places toi vis-à-vis de ça?
Pour moi, le body positive, c'est de faire ce qu'on veut de son propre corps, en fait, très très clairement. Donc si certaines personnes sont parfaitement à l'aise comme elles le sont, mais je suis la première à être heureuse pour elles, vraiment. Si d'autres personnes ne sont pas à l'aise, elles ont aussi le droit de faire quelque chose pour changer, avoir envie de se ressembler peut-être davantage. C'est tout à leur honneur aussi. Je pense que vraiment, chacun aujourd'hui est libre de faire ce qu'il veut. On peut venir chez moi et faire du sport, et c'est le cas d'ailleurs de, étonnamment, la très grande majorité, juste pour être bien dans sa tête. La plupart de mes abonnés me disent en fait, moi, je ne suis pas venue pour forcément perdre du poids. Ou alors, ça a pu être la motivation première, sauf qu'aujourd'hui, je suis toujours là parce que ça me fait du bien. Et... je ne suis pas là pour imposer aux femmes d'être plus fines, plus musclées, plus ceci, plus cela. Moi, personnellement, j'aime sculpter mon corps. C'est un de mes objectifs lorsque je fais du fitness. Mais ça peut ne pas l'être de la majorité aussi de ma population. Ce n'est pas grave. Chacun y trouve son compte. Si on est là pour se faire du bien, pour décompresser, c'est génial. Si on est là parce qu'on a envie de perdre 30 kilos, c'est super aussi. Si on n'a juste pas envie de venir, c'est très bien également. On ne vient pas. Voilà. Et je pense que l'objectif, vraiment, c'est de ne rien imposer, de proposer des programmes, avec divers objectifs, justement, pour pouvoir répondre aux diverses attentes de mes abonnés. Et je pense que c'est ça qui est apprécié, finalement, quand je propose un programme avant l'été. Ce n'est pas forcément un programme pour perdre du gras. Ça va être un programme pour se faire du bien, pour se sentir tonique, pour se sentir bien dans ses formes. Mais je ne suis pas là à dire avec ça, tu vas perdre 10 kilos en deux mois. Quoi. Ouais. Non, ce n'est pas le but.
Donc finalement, en fait, tout ça est assez compatible. Enfin, tout ça peut vivre de façon totalement...
Ah mais tout à fait. Moi, avant l'été, c'est vrai que j'aime bien sculpter un peu ma shape parce que je suis vraiment une vraie fan de fitness et j'adore ça. Puis l'hiver, m'en fiche un peu, on se fait plaisir sur le fromage et puis on a 4 kilos de plus. Et puis, c'est pas grave, quoi, on s'en fout. Et ça, les gens, je pense, l'ont compris et ne me voient plus ou ne me voient pas tout court comme... la fit girl qui veut imposer son mode de vie ultra strict et autres aux autres, quoi.
Il veut à tout prix que tout le monde soit fit.
Non, loin de là.
Allez, hop, avec le petit fouet derrière.
Oui, c'est ça. Allez, 10 burpees.
aïe. T'imagines, next step, t'as un espèce d'hologramme derrière toi quand tu fais du fitness.
Surtout pas. Mais je pense que c'est ce qui a été le succès des lives aussi, finalement. On se retrouvait plus pour rigoler, bien que les séances étaient intenses, mais plus que pour avoir un objectif à la fin du confinement, je vais être fit, non. On était là en train de faire Sébastien le crabe en pleine séance, tout le monde rigolait. Et puis c'était ça, je pense, l'objectif des retrouvailles, on va dire.
Il y a un autre aspect que je trouvais assez intéressant. Je regardais souvent les success stories, que ce soit les success stories américaines ou les success stories à la française maintenant, comme il existe aussi. Les gens qui réussissent, ça résulte souvent d'un échec quelque chose qui a été marquant pour eux dans leur, dans leur passé, dans leur enfance, ou de faits marquants. Toi, j'avais écouté sur une interview où tu disais que finalement, l'échec, tu ne l'avais pas vraiment connu parce que ça avait été une progression et que tu n'as pas lancé quelque chose qui s'est cassé la gueule et où tu t'es dit « Oula, ça fait mal ». C'est quoi ton rapport à l'échec, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur?
Alors, c'est vrai que j'ai jamais connu d'échec important qui m'a fait rebondir, etc. Comme tu l'as dit, tout s'est présenté petit à petit. Néanmoins, j'ai pas peur de l'échec, comme je le disais, il faut vraiment voir les erreurs comme des leçons finalement. J'en ai pas connu de gros, mais on a aussi connu des petites déconvenues, comme tout le monde. Et le plus important, c'est de savoir rebondir. Je le dis souvent à ma communauté, il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'une leçon à apprendre finalement. Après, évidemment, c'est facile à dire quand on n'en a pas connu de super important dans une vie, mais en ce qui concerne en tout cas le business, etc., tout est bon en fait à rebondir. Ça n'a pas marché, le lancement, ça a été un flop, pourquoi ? Ok, faire mieux la prochaine fois. Et c'est ce qui permet aussi, oui, comme on le disait, d'avancer, quoi.
C'est marrant parce que quand on t'écoute, quand on te voit, on a vraiment ce sentiment que tu as une confiance en toi qui est assez inébranlable. Tu vois, qu'il y a quelque chose de très fort, de très ancré. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, c'est pas une confiance en soi, comment dire, dans le sens où je me sens et je me crois absolument pas parfaite et je n'ai absolument pas la certitude de ne jamais échouer. Mais j'ai plutôt confiance en ce que je fais et en ce que je propose. Puisque c'est toujours ultra conforme à mes valeurs, ultra conforme à ce que j'ai envie de proposer. Et malheureusement, si ça ne marche pas, c'est que les gens n'attendaient pas ça. Mais je n'ai pas de problème de remise en cause dans le sens où je sais ce que j'avais véritablement envie de le tester. Bon, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui aide de ne pas se lancer sur un terrain où on n'est pas sûr de soi, mais vraiment de proposer quelque chose dont on est convaincu soi-même. Ça aide, oui.
Est-ce qu'il faut quand même finalement pas avoir quand même confiance en soi pour avoir confiance en ses projets ?
Évidemment. Et c'est vrai que moi, les réseaux sociaux m'ont quand même énormément aidé là-dessus. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'ai commencé comme ça. Je n'étais pas forcément la jeune femme ultra confiante en elle. J'étais comme toutes les jeunes filles de 20 ans, quoi. Hein, avec les complexes, les trucs où j'étais à l'aise, ceux où je l'étais moins. Enfin, et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça forge quand même un peu le caractère, on va pas se mentir. Et c'est vrai que la critique a aussi ce bon côté qui est que au bout d'un moment, on apprend à la recevoir tout simplement et à rebondir sans se laisser atteindre. Et c'est aussi peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai eu la confiance de créer Train Sweat It. On a eu la confiance de créer cette entreprise et qu'on est assez sûr de ce qu'on propose. Il y a 20 ans, ça aurait peut-être effectivement pas été le cas.
Différent,
bien sûr.
Et à contrario, est-ce que, parce que je regardais sur les commentaires de tes posts, il y a énormément de gens qui te font des compliments. Si, t'es belle, oh là là, machin et tout. Mais ouais, t'es parfaite. Est-ce que ça peut pas, au bout d'un moment aussi, un peu faire péter les plombs, quoi, et te dire, je suis vraiment une ouf.
disons que c'est vrai que les gens qui me suivent, en tout cas, apprécient ce que je leur partage.
Ouais.
Donc, la plupart des fidèles abonnés font plutôt des compliments plus que des critiques. Après, il faut rester sur terre. Hein. Comme je dis souvent, on est sur les réseaux avec 1 million, 2 millions de followers, on est la même personne que le voisin. Bon, c'est juste qu'on a entrepris quelque chose de différent, mais finalement, on est des personnes absolument comme tout le monde. Et il ne faut pas l'oublier, évidemment. Et j'hésite pas à le montrer aussi. À montrer l'envers du décor. Là, je suis venue en jean, en polo. Et on ne se prend pas la tête, en tout cas, en ce qui me concerne tous les deux. Et on n'hésite pas à le montrer. Quand je fais mes séances de sport, à la fin, je n'hésite pas à me montrer démaquillée, dégoulinante, toute rouge, mal coiffée. C'est aussi le quotidien, quoi. Et je pense que malgré tout, c'est quelque chose aussi qui plaît une fois de plus, de ne pas voir que la belle vitrine, mais de voir aussi l'envers du décor, les moments un peu plus difficiles, comme dans la vidéo YouTube The Real TC, où on montrait une engueulade avec Tini, parce que c'est le quotidien des couples. Donc ça les rassure de savoir que, ils nous adorent, mais on se dispute aussi, quoi.
C'est ça. Et ton couple aussi te sert de socle pour pas, comme je disais, péter les plombs et te prendre pour une folle, ouf. C'est vraiment quelque chose qui te canalise aussi.
Oui, c'est important d'être bien entouré, hein, comme on disait, effectivement, être entouré de personnes qui vous boostent, qui vous motivent au quotidien, c'est important. Et puis d'être aussi avec une personne qui a les pieds sur terre, c'est le cas de Tini, c'est quelqu'un aussi comme moi, hein, de très simple au quotidien. Et c'est appréciable, surtout quand on vit dans ce milieu qui peut paraître un petit peu superficiel, d'être entouré de personnes terre à terre, que ce soit la famille, le compagnon, les amis. C'est aussi important quand on éteint le téléphone, de se retrouver dans des moments simples et de plus être
juste pour toi, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Les choses que c'est les petits moments que toi tu gardes et qui sont
totalement. Dès que le téléphone et la caméra sont éteintes, on est la même, mais mais dans sa vie privée. Mais seule, exactement, seule chez soi, quoi.
C'est ça. Alors, pour, on va dire, un peu clôturer ce podcast, on pose deux questions, toujours à toutes nos invitées, qui sont toujours les deux mêmes questions. La première question, c'est, est-ce qu'il y a un souvenir de sport que tu as vécu dans ton enfance, ou que tu as vu à la télé, ou que tu as passé avec tes parents, enfin peu importe, un moment de sport qui a été marquant, vraiment marquant pour toi?
Des souvenirs de sport, j'en ai pas mal. C'est vrai que ma famille est assez sportive, donc j'ai toujours eu dès toute petite des activités assez diverses et variées. J'ai un bon souvenir malgré tout quand j'ai fait le semi-marathon Nice-Cannes. Donc je suis pas du tout aficionados des compétitions en tout genre, mais ça c'était un petit événement auquel j'ai participé il y a quelques années qui m'a laissé un très très bon souvenir. Donc ça c'était vraiment d'un point de vue personnel. J'en parle même pas sur les réseaux, mais j'étais bien fière de moi à l'époque.
Bah grave.
Voilà, et puis après, aujourd'hui, mon souvenir sportif, malgré tout, le plus important, c'est de réussir à motiver les troupes. Et à chaque fois que je propose une séance, de savoir que voilà, qu'il y a des dizaines, voire centaines de milliers de personnes derrière, c'est un petit peu virtuel, mais ça reste un excellent souvenir. Ouais.
D'ailleurs, alors complètement à côté, mais il y a d'autres sports que tu suis, des athlètes que tu aimes bien, dont tu checkes un peu les résultats, ce genre de choses?
Franchement, non.
C'est vrai?
Fitness forever.
100% fitness.
Ouais, j'adore le fitness. Depuis que j'ai commencé, c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu mis à côté les autres sports.
Ouais.
Je faisais de la course à pied. Alors, j'en fais toujours, mais sur machine en intérieur, c'est difficilement compatible d'être à fond partout. C'est compliqué. La danse, j'ai également arrêté. J'ai longtemps fait de la danse, danse de couple, etc. J'en fais plus. J'aimerais en faire, mais bon, l'emploi du temps ne me le permet pas.
Ouais.
Donc, priorité au fitness, toujours et forever. C'est vraiment mon sport.
C'est vraiment ton motif de vie, quoi. C'est fitness forever.
Ah ouais, j'adore.
Et notre dernière question pour clôturer le podcast, on demande, donc notre podcast s'appelle Championne du monde. On considère que toutes les femmes sont des championnes à chaque niveau de leur vie.
Oui.
Quelle est ta définition, toi, d'une championne?
C'est de réussir à accomplir ce dont on rêve. C'est pas forcément professionnel, hein, mais les gens ont souvent des envies, des rêves, des espoirs, et se croient souvent, trop souvent, incapables de les réaliser. C'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. J'imagine que c'est le cas de 100% des femmes qui sont interviewées dans ce podcast. Ce sont des femmes comme tout le monde. À l'origine, personne n'est né avec un don de Dieu. Hein. Bon, j'arrête pas de répéter qu'il y a un don du fitness, mais je pense pas qu'il m'ait doté plus que les autres. Donc au final, vraiment, tout réside en se lancer. Il faut pas avoir peur d'y aller. Souvent, on se dit « Ah, j'aimerais trop, mais je n'ose pas faire le premier pas. » C'est comme pour franchir la porte de la salle de sport. Finalement, il suffit juste de se lancer, d'arrêter de se poser trop de questions, de se dire « Si d'autres ont réussi, moi aussi, je suis capable de pas avoir peur de tester, pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur du « qu'en dira-t-on ?» De foncer, de se dire « Allez, j'y vais, se donner à fond. » Parce qu'évidemment, il n'y a pas de succès sans implication à 100%, à tous les niveaux. Voilà, faut vivre son projet et d'arrêter de se dévaloriser et de croire un petit peu en ses capacités. Et souvent, les personnes sont capables de bien plus qu'elles ne le croient dans leur projet, mais aussi sportivement parlant. Hein, les gens se disent toujours « Ah, ce programme, il est trop dur, je ne vais pas y arriver. » Puis au bout de 8 semaines, « Oh, c'était génial, je ne pensais pas en être capable, j'ai tout déchiré. » Donc c'est un petit peu le mot de la fin. Donner à fond et commencer à croire en soi.
Très bien. Et écoute, si tu sais pas quoi faire, plus tard, je pense que tu peux te reconvertir dans le coaching mental aussi.
Ah, c'est ce que tu dis, arrête pas de
c'est
me
vrai
dire. Il me dit, quand t'auras plus Train Sweat It, faudra que tu coaches les gens.
Ouais, c'est vrai. On sent, dans tout ton discours et tout, on sent qu'il y a toujours quelque chose de vachement dans la motivation, tu vois, dans le aller chercher des choses au fond de soi qui est vachement présent.
Ouais, parce que j'ai connu ça. Tout simplement, je n'étais pas quelqu'un de plus doué que les autres, je n'étais pas quelqu'un de plus motivé que les autres, je n'étais pas quelqu'un de plus volontaire que les autres, mais c'est venu. Donc si c'est venu chez moi, ça peut venir chez n'importe qui, quoi.
Voilà. coach Sissi.
Voilà, c'est ça.
À tout niveau. Top. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce moment. Et voilà, j'espère que nos auditeurs apprécieront cet épisode.
Ouais,
et je n'en doute absolument pas. N'hésitez
merci
pas d'ailleurs
beaucoup
à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis merci Sissi. Et puis,
merci.
Écoute, on te retrouve dans 50 ans, encore avec les vidéos de fitness.
C'est ça. Allez-y, les filles, genre, on lâche rien.
Ta petite canne.
C'est ça.
Bon, quoique à 90 ans, peut-être que t'auras pas de canne. Je te le souhaite, en tout cas.
Et j'espère bien. J'espère bien.
Super. Écoute, merci beaucoup.
Merci
et
beaucoup.
Puis, peut-être à bientôt.
À bientôt.
Salut.
40-0.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.